BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Antoine Larigauderie.
Et c'est parti pour la dernière heure de BFM Bourse. Des marchés bon, qui font plutôt grise mine, là, moins 0,35% pour le CAC 40, 8075 points. Alors, on en reparlera avec Romain Daubry, dont on refait la séance tout à l'heure, mais il va falloir le tenir ce niveau, hein, parce qu'apparemment, en dessous, ça risque d'accélérer à la baisse du côté des autres indices européens. L'Eurostock 50, moins 0,24%. Mais l'Euronext Tech Leaders, plus 0,39%. On a eu des bons résultats, des bonnes performances du côté des semi-conducteurs. Regardez, ST Micro, qui a une quasiment 7% tête du CAC 40 à 45,01€. Et puis, oui, légère performance sous azimut du côté de la tech. Hein. Surperformance du Nasdaq, qui gagne 0,08%. Le Dow Jones, lui, perd 0,54%. Du côté des valeurs qui font l'actualité, alors on va en reparler très très largement, hein, mais il y a beaucoup de résultats d'entreprises qui sont salués. Si la tech performe aussi bien, c'est quand même qu'on a une hausse de Sopra Steria de quasiment 17% à 133€, Massoy Tech plus 12,80€, 111,40€, ST Micro plus 6,7% à 45,01€. Du côté du CAC 40, à noter que Pernod Ricard recule de 3,17% à 62,24€. Oui, apparemment, les discussions autour d'une fusion avec Brown Forman, l'américain, la maison mère de Jack Daniel's, bon, ben, c'est fini, on n'en parle plus. Et donc, le marché en prend acte. Refin scientifique, plus forte baisse, moins 3,5% à 57,66€. Puis attention, aéroport de Paris, moins 7,5%. 100,30€ les taux d'intérêt. Ça, on va en reparler très largement dans les prochaines minutes avec nos deux invités du club. 3,75 pour l'OAT français, 10 ans, 3,09 pour le 10 ans allemand. Et puis, nouvelle cote d'alerte à nouveau pour le 10 ans américain à 4,4%. Ça va commencer à poser problème à tout le monde, y compris à Jerome Powell avec sa dernière réunion de la Fed ce soir. Et puis, il y a le pétrole. $105,29 pour le baril de brut léger américain, $109,68. Pour le baril de Brent de mer du Nord, la situation reste extrêmement tendue. Il n'y a aucun progrès dans le dossier iranien. Donc, pas de raison que les prix du pétrole se calment. Et ça risque aussi de poser problème dans le futur. D'autant qu'on a Bank of America qui lance quand même une alerte. Hein, on peut l'appeler comme ça. Une véritable alerte en disant, pour la première fois de l'histoire de notre département de recherche, on est obligé de relever sur le long terme nos prix du pétrole en pensant que ça va être plus élevé, plus longtemps. Et c'est la première fois que ça leur arrive. Donc, du coup, il y a effectivement un sentiment de forte hausse et de dynamique un petit peu inarrêtable sur les prix du pétrole. On en reparlera largement, hein, évidemment, dans ce club. Et donc, on refait la séance avant la fin de l'émission. Le reste de l'actualité du jour. Les résultats de Total Energy font évidemment réagir au niveau politique. Le gouvernement, lui, refuse de rentrer dans le Total bashing. Selon la porte-parole Maud Bréjon, personne ne doit en revanche profiter de la crise et aucun super profit ne doit être réalisé. On se pose toujours la question de savoir ce que c'est qu'un super profit. Mais bon, on va peut-être en savoir un petit peu plus. Le gouvernement est d'ailleurs chargé d'étudier d'éventuelles nouvelles réponses à la hausse des prix et les députés socialistes ont déposé une proposition de loi afin de taxer justement ce qu'ils qualifient de super profit des profiteurs de crise. Le député Philippe Brun, qui sera d'ailleurs sur BFM Business à 18h30 chez Edwige Chevrillon, justement, il pourra peut-être nous expliquer en théorie ce que c'est qu'un super profit, parce qu'on se pose toujours la question. En Allemagne, le gouvernement Merz présente son budget 2027. Elle reprogramme l'augmentation des dépenses à 543 milliards d'euros, dont plus de 100 consacrés à la défense. Et le tout va nécessiter un recours accru à l'endettement pour combler le déficit. Une réforme fiscale est aussi prévue avec des allègements pour les ménages modestes et davantage de contributions pour les plus gros revenus. Le gouvernement passe aussi une réforme de l'assurance maladie avec une augmentation des cotisations. Et puis, fusion en vue dans les ascenseurs. Vous allez voir, c'est des noms que vous connaissez, que vous voyez tous les jours au moins une fois. Le Finlandais Kone, qui va mettre 20 milliards d'euros sur la table pour racheter TK Elevator. C'est l'ancienne filiale de l'allemand ThyssenKrupp. Ouais, celui-là, vous le voyez aussi. L'objectif, c'est de réunir les numéros 3 et 4 mondiaux pour rivaliser avec le numéro 1 et le numéro 2. Le numéro 1, c'est Otis. Et le numéro 2, c'est Schindler en Suisse. Voilà, c'est des noms que vous voyez tous les jours. Et grâce à l'actualité économique, on prend la mesure du truc. Tout de suite, le club.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Jean-François Robin d'Natixis qui nous fait l'amitié de rester avec nous. Bonjour, Emma Brooke-Chetouane de Natixis. Bonjour. j'allais dire, bon, le climat de marché. On est effectivement sur un CAC 40 qui a tendance à s'effriter. On est sur des niveaux techniques. Là, Romain Dobry nous a dit, hein, ça se joue autour des 8070 points. Et on est même en dessous, là, moins 0,44%. Donc, bon, voilà. On est prudent, on n'est pas non plus... C'est pas la forte baisse qui domine, il n'y a pas un changement radical de position de marché, mais enfin, on reste. Voilà, au milieu des résultats d'entreprise, et il y a vraiment à boire et à manger. Au milieu d'un environnement obligataire qui commence à devenir compliqué, on l'a dit, on a des codes d'alerte un petit peu partout sur les 10 ans. Au milieu d'un contexte où le pétrole n'arrête pas de grimper aussi, et on se demande où ça va se terminer. Et puis, voilà, le dossier iranien qui est toujours pas refermé, et on est peut-être en train de commencer à intégrer là au cours le fait que ça va rester comme ça en l'état, ça va peut-être péter de temps en temps, mais que globalement, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de deal, et qu'on va rester sur cette sorte d'épée de Damoclès permanente sur la région. Mabrouk Chetouane, vous pensez que le marché est peut-être en train d'avaler ce scénario-là en ce moment ?
Le marché finalement fait avec ce qu'il a. Globalement, quand on observe juste l'histoire, le scénario que vous décrivez, on le connaît déjà depuis 2022. On répète ça de manière inlassable sur les plateaux. La Russie et l'Ukraine sont toujours en guerre, ça fait 4 ans. Ça a démarré de la même manière, hein, donc avec des prix du baril qui avaient littéralement explosé, qui se sont calmés, qui sont repartis à la hausse au mois de juin quand on reprend la chronique de 2022. Et on n'a pas encore passé les niveaux qu'on avait observés sur, au cours de la crise de la guerre, qui oppose toujours l'Ukraine à la Russie. Donc c'est un scénario que l'on connaît, le marché n'attend pas la fin du conflit, il n'est pas non plus entre guillemets naïf à ce point, donc la fin du conflit on ne sait, c'est une variable aléatoire dont personne ne connaît finalement la distribution et globalement, fondamentalement, ce qui compte c'est surtout, encore une fois, c'est l'intensité du conflit. Est-ce qu'on repart sur des bombardements? Est-ce qu'on repart sur des destructions de capacités? La réponse est non. Donc globalement, tout le monde est assez d'accord là-dessus. Personne finalement ne parie finalement que ça va de nouveau se produire. Donc fondamentalement, le pic d'intensité, il est derrière nous. Il faut effectivement régler Hormuz. Là, clairement, c'est une question de temps et on va voir si les belligérants les plus importants, globalement, à savoir les États-Unis, l'Iran et la Chine, parce qu'à un moment donné, ça va commencer à coincer également au point de vue du commerce mondial. Et on sait bien que l'une des sources de croissance de la Chine, ça reste finalement les échanges extérieurs. Et fondamentalement, donc, à un moment donné, il va falloir trouver un accord, trouver effectivement une solution pour pouvoir sortir, entre guillemets, de cette situation de blocage. Et ni les Américains, ni les Iraniens, ni les Chinois n'ont intérêt à ce que ça dure. Jouer les prolongations dans ce contexte-là, ça va être délétère, notamment pour Donald Trump, qui alors lui, pour le coup, essaye véritablement de récupérer, en quelque sorte, comme il le peut, cette situation à des fins politiques en vue des mid-term. Mais on voit bien que finalement, avec un prix du galon qui commence à stationner finalement, si vous me permettez le jeu de mots, au-delà de 4 dollars le galon, ça commence à être compliqué. Donc, à un moment donné, ça peut pas durer très longtemps. Et puis le marché, fondamentalement, encore une fois, lui, ce qu'il regarde, c'est plus la question macro. On est passé dans une séquence micro. Et oui, effectivement, il y a encore, faut faire un peu la part des choses dans ce qui est publié. Mais globalement, ça se passe très bien depuis finalement le début de publication des résultats.
Oui, et puis on commence à avoir finalement les choses qui se croisent, c'est-à-dire le galon à 4, hein, peut-être un petit peu plus, les taux qui commencent à monter du côté des 4,4%, ça commence à faire... Ça commence à plafonner, on a l'impression d'avoir le feu stop.
Alors disons que les seuils de douleur ne sont pas encore atteints sur la partie obligataire. Mais bon, globalement, à mesure qu'on s'en rapproche... Loin. Enfin, oui, là on n'est pas dans les seuils de douleur. C'est-à-dire qu'en gros, ça monte, c'est pénible, mais...
Au-delà de 4,5, là, c'est...
À 4,8, typiquement, calmez, ouais. À 4,8 sur les taux américains.
Oui, 4,8.
Oui, non, mais on a encore de la marge. On est à 4,4, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Et puis 4,4, encore une fois, faut voir d'où ça vient. Donc, faut pas non plus se dire, ah, mais attention, 4,4%, c'est un seuil, finalement, qui commence à être très pénible. Si ça vient de la partie inflation, effectivement, sur la partie de taux nominaux, bah oui, ça, c'est assez logique. En revanche, si ça vient tout simplement d'une réappréciation des taux d'intérêt réels, tout simplement parce que les marchés se disent, finalement, le cycle américain n'est pas si faible que ça, au contraire, il peut nous surprendre à la hausse, c'est pas non plus dramatique. Donc, encore une fois, d'où vient finalement la question à laquelle il faut répondre, c'est d'où vient cette croissance finalement des taux d'intérêt? Est-ce qu'elle vient d'un choc inflation? Est-ce qu'elle vient d'un choc réel? Là encore, vous regardez un peu les données.
Alors, oui, pour revenir à la situation géopolitique, il y a un super tweet de Javier Blas, qui est éditorialiste à Bloomberg, on pensait qu'on allait avoir un taco, Trump always chickens out. En fait, on a un nacho. Not a chance, Hormuz opens. Donc voilà, on reste dans la gastronomie Tex-Mex. Mais enfin, globalement, voilà, est-ce que c'est peut-être ce que dit Mabrouk, c'est-à-dire que les marchés ont réussi à pricer l'imprévisible.
Bah là, moi, je trouve qu'on est surtout dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché...
Mais un entre-deux permanent, quoi.
Voilà, il y a deux queues de distribution très opposées. Hein, ouais. Qui, d'un côté, vous avez une escalade de nouveau du conflit avec la destruction d'infrastructures énergétiques, ce qui n'a pas été le cas à l'exception du gaz. Hein, donc, on pourra reparler du pétrole après. Mais on est dans un scénario qui serait beaucoup plus méchant avec un prix du pétrole qui serait sans doute plutôt à retrouver les niveaux de post-Ukraine. Donc, on serait sur du 130-140 dollars. Donc, c'est un scénario très extrême, très stagflationniste. On peut pas exclure une récession. De l'autre côté, vous avez un cessez-le-feu possible. Il y a encore vendredi, il y a 15 jours, c'était le scénario même presque central qui était là. Si on a un cessez-le-feu, une réouverture totale du détroit, la question c'est combien de temps ça prendra de revenir à la normale. Mais finalement, on aurait évidemment des prix du pétrole qui repasseraient très très vite repricés par les marchés, en tout cas, sous les 80 dollars. Et là aujourd'hui, on se retrouve avec un prix du Brent autour de 109.
Bah, oui.
Ça va durer un peu plus longtemps. Les 4-5 semaines sont évidemment largement passées. Nous, on avait un scénario de 2 mois typiquement, là aussi on est un peu au bout de ça, donc on rajoute un mois dans notre scénario central faute de mieux, on n'en sait rien, hein. Donc on a un pic du pétrole que nous on voit au mois de mai autour de 118 dollars typiquement. Après, bon, évidemment ça dépendra de la résolution de cette crise. Je suis assez d'accord pour penser qu'à la fin, de toute façon, c'est un peu tautologique, mais on aura un cessez-le-feu, on aura une réouverture du détroit, on aura un accord entre les Iraniens et Donald Trump
vite fait.
Non, mais ce qui est très intéressant, ce que je trouve, c'est qu'on a basculé. En fait, le maître du temps, c'est l'Iran.
Ah oui.
En fait, Trump, il est d'accord de faire un taco, sauf qu'il faut être, il texte tout taco, quoi. C'est qu'il faut être deux pour faire machine arrière. Et là, on est un gros problème, c'est que l'Iran, c'est l'art du deal. C'est eux qui l'ont gagné, cette négociation. S'ils ne bougent pas, Trump est en train de faire des concessions les unes après les autres. Donc là, il est en train de dire que c'est la fin du gentil Trump. Bon, on va voir. Je pense qu'il de nouveau fait remonter les tensions. Mais je pense quand même qu'à la fin, on se retrouve avec un détroit d'Hormuz qui ouvre peut-être avec des fils à verser aux Américains et aux Iraniens. Beaucoup moins fluide qu'auparavant. Je pense surtout qu'à la fin, Trump va faire passer comme une victoire le fait qu'on va réouvrir le détroit à la moitié de ce qu'il était avant que l'opération du 28 février. Voilà, ce sera une victoire absolue.
Ouais.
Mais je pense qu'il a besoin de ça pour les élections mid-term. Il a besoin de ça avant le 14 mai, quand il va aller voir Xi Jinping. C'est quand même une visite que lui-même a sollicitée et qu'il a repoussée une fois.
Oui.
Il va arriver en Chine, je ne pense pas qu'il puisse arriver en disant j'ai de nouveau détruit toute possibilité de paix, de réouverture du commerce international. Comme le disait Mabrouk, c'est évidemment le moteur principal de l'économie chinoise en ce moment.
Ouais.
C'est 50% de ses importations de pétrole, c'est 30% de ses importations de gaz. On sait que les Chinois ont des moyens de contourner ça et des réserves. Ils peuvent tenir un petit moment. Mmh. En revanche, l'économie mondiale, beaucoup moins.
Ouais.
Et ça aura un impact de second ordre sur la Chine. Donc je pense quand même, à un moment donné, ouais, le scénario central qui est le nôtre et qui est, à mon avis, celui du marché, c'est que ça va finir par se résoudre. On ne sait pas quand, mais à la fin, on retrouve une situation... pas retour à la normale, les prix du pétrole seront plus élevés, les prix des engrais, produits agricoles seront sûrement plus élevés, mais on se retrouve avec une situation quand même moins dramatique que n'elle l'est aujourd'hui où tout est bloqué.
Le retour à la normale, enfin quand on regarde juste la courbe finalement sur les prix du pétrole, donc elle est toujours en backwardation, c'est-à-dire qu'en gros elle est inversée, on a un prix du baril à court terme qui est plus élevé que ce qu'on attend finalement sur le long terme, alors qu'en principe ça doit être l'inverse, mais le retour à 80 qu'on estime être finalement le seuil d'acceptabilité finalement sur le prix du pétrole.
Ça arrange un peu tout le monde. Voilà
ça arrange les exportateurs, ils sont assez contents d'exporter à 80. Alors après, ça dépend des types de pétrole, bien sûr. Le pétrole algérien ne s'exporte pas à 80, alors que le pétrole saoudien, il est rentable à 10 dollars déjà.
Oui,
donc,
voilà.
Et donc, du coup, on se rend compte que les pays importateurs à 80 dollars, c'est encore finalement un seuil qui est encore acceptable.
Ouais.
C'est pénible, mais ça passe. Mais par contre, ce niveau-là, le marché l'anticipe dans un an. C'est un peu problématique.
C'est un problème de timing.
Et puis, vous le soulignez, finalement, la partie obligataire, et en fait, on aime toujours à dire que la vérité est dans les taux, elle n'est pas ailleurs. Finalement, les taux nous disent, attention, là, fondamentalement, on a un durcissement des conditions monétaires et financières, et il va falloir effectivement faire quelque chose. Et bon, ça tombe bien, on a les banquiers centraux qui vont se mettre tous à parler, enfin, en tout cas, les principaux, ce soir, on est mercredi ?
Ce soir,
et la BCE demain. Donc du coup, on va voir effectivement quel va être leur discours. Et là, encore une fois, on a des attentes de marché qui nous semblent totalement en fait délirantes par ailleurs, notamment concernant l'Europe. C'est pas le moment de resserrer des conditions financières et monétaires, alors même finalement qu'on a déjà un choc négatif qui s'applique à la demande. Donc fondamentalement, à mon sens, il y a un discours un peu d'apaisement qui doit venir de la part des banquiers centraux pour essayer finalement de réduire cette pression qui, finalement, si elle perdure, va poser finalement des problèmes au cycle macro. Donc là aussi, il faut faire attention.
Effectivement. Allez, un petit peu plus de 15 minutes de cotation encore. La Bourse de Paris, moins 0,51% pour le CAC 48 062 points. On a un Eurostock 50 qui recule de 0,46%, moins 0,41% pour le DAX à Francfort, moins 0,55% pour l'IBEX à Madrid. On est partout dans le rouge, hein. Même du côté de Londres, on a une baisse un petit peu plus prononcée, moins 1,2%. Du côté de Wall Street, on est dans le rouge, moins 0,08% pour le Nasdaq et moins 0,57% pour le Dow Jones. La tendance s'inverse. On avait le Nasdaq qui sous-performait tout à l'heure. Alors, ce sont les valeurs industrielles qui subissent les dégagements les plus marqués pour le moment. La volatilité bouge pas trop du côté des 18 points pour l'indice VIX. À Paris, quelques hausses spectaculaires. On va en reparler. Hein. Sopra Steria qui gagne 15,8%, 132 euros. Soitec, plus 13,4% à 112,15 €. Le titre, c'est quand même de la folie. Medincell, plus 6,6% à 24,38 €. Semi-conducteur, toujours ST Micro, hein, plus 6,2%, 44,80 €. Et à la baisse, on retrouve Aéroport de Paris, moins 7,2%, 100,60 €. Valneva, moins 3,9 €, 2,32 €. On a Pernod Ricard aussi, on ne parle plus hein, de la fusion avec Brown-Forman, la maison mère de Jack Daniels. Tout ça a été mis sous le tapis. On n'en parle plus, les négociations sont terminées. Donc, du coup, le marché en prend acte. À noter l'obligataire, hein, toujours tendu, 3,75 € pour le 10 ans français, 3,09 € pour le 10 ans allemand, 4,39 € pour le 10 ans américain. Le pétrole, on en parle beaucoup depuis le début de ce club, 105,20 $ pour le baril de brut léger américain, le Brent de mer du Nord. 109,80 €. Jean-François Robin et Mabrouk Chetouane de Natixis. On va peut-être parler du catalyseur, de l'autre catalyseur majeur des marchés en ce moment, c'est celui des résultats d'entreprise. Et c'est vrai qu'avant de parler des GAFAM, bon, ce sera le feu d'artifice là, après la clôture de Wall Street. Là, surtout, ce qui ressort, c'est que bon, le pétrole cher, on en a parlé, bon, ça fait les affaires de Total, de BP. On a eu des très bons résultats là, ces dernières heures. Puis un autre secteur qui commence à devenir étonnant, c'est le secteur bancaire, parce qu'on se dit qu'il a pas mal grimpé ces derniers mois. Mais quand on regarde les performances de Santander, de Deutsche Bank, d'UBS, qui revient du diable au Vauvert, et nos banques françaises, on attend quand même des bons chiffres, hein, ce sera lors de la séance de demain. Ben voilà, on a des fondamentaux d'entreprise qui continuent quand même de soutenir le marché.
Bah, les résultats des banques disent quelque part, au fond, que le cycle macro dans son ensemble, qu'il s'agisse du cycle européen ou du cycle américain, avant finalement ce choc énergétique et ce choc sur l'activité, bah, globalement, ça allait bien. C'était un peu le scénario avant le 28 février. C'est que globalement, on était encore sur un cosme, finalement, où l'Europe, ça allait de mieux en mieux, où les États-Unis, finalement, après le creux conjoncturel de 2025-2026, allait être un millésime qui allait être pas trop mal, finalement. Donc, globalement, les résultats du secteur bancaire, finalement, viennent valider un peu cette thèse. Alors maintenant, bien évidemment, si on a un fort freinage conjoncturel au second trimestre, ça va se voir également dans le résultat des banques. Mais là, pour le moment, fondamentalement, bah, il n'y a pas de raison, finalement, de se dire que le premier trimestre, finalement, d'un point de vue macro, va être mauvais, puisque la micro confirme quelque part, bah, que les entreprises, bah, continuent finalement de faire affaire avec les banques, que les banques, finalement, continuent de soutenir l'économie via le crédit, que l'activité de transformation d'échéance, ça se passe bien, et que même l'activité pour compte propre, ça se passe plutôt bien. Donc globalement, il n'y a pas grand-chose sinon à dire, si ce n'est que le secteur bancaire dont on disait qu'il était un peu cher, que finalement les attentes étaient peut-être un peu spectaculaires par ailleurs, bah, ça ne déçoit pas, ça continue. Donc fondamentalement, bah, la dimension micro continue de soutenir le marché. Et c'est une bonne nouvelle quelque part, puisque ça nous permettra de conclure et d'arriver à cette idée que, en dépit de ce choc négatif sur l'activité, sur la demande, bah, fondamentalement, on avait une activité, pardon, fondamentalement, qui était assez forte et qui pourra finalement absorber une partie de ce choc. Pas tout, évidemment, mais une partie pourrait être absorbée par le cycle.
Jean-François Robin, secteur bancaire, secteur pétrolier, finalement, même combat.
Alors, je pense pas que ce soit le même combat quand même. Hein.
Non, mais la hausse des taux, les taux, c'est le carburant du secteur bancaire.
Oui, non, mais ce qu'on voit, c'est les dynamiques. Alors après, c'est pareil, il y a des dynamiques qui sont très différentes entre différents marchés. Bien sûr. Je pense aux banques américaines ou aux banques européennes. Mais les chiffres qui sont aussi intéressants à l'aune de la conjoncture, hein, c'est ce qui était sorti des chiffres de ce matin, hein, c'est que finalement, la distribution de crédit par les banques européennes, elle augmente au mois de mars de 3%. C'est-à-dire que, grosso modo, les banques en Europe ont continué de prêter plus vite que le PIB. Et donc, Donc, et ça veut dire aussi que de l'autre côté, il y a une demande de la part des entreprises d'emprunter auprès de leur banque. Donc, ça laisse pas penser quand même que jusqu'au mois de mars, en tout cas, il y avait une grosse ralentissement des entreprises au niveau européen. Ouais. De la part de les ménages, c'est pareil. On est au-delà de 3% de demandes sur les prêts des ménages adressés aux banques européennes. Donc, la dynamique du premier trimestre, elle semble assez bonne. Mais encore une fois, c'est un peu comme tous ces résultats qu'on va voir ce soir. On est quand même dans des résultats qui sont un peu backward-looking. On est quand même en train de regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Le choc, probablement, de la crise en Iran, on le voit sur les taux, mais on va le voir bientôt sur la conjoncture, il est plutôt au S2. Et donc, les résultats d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la vérité de demain, quand même.
Bah écoutez, en tout cas, on va continuer à décortiquer tout ça parce qu'il y a encore pas mal de choses à venir. Dites, les GAFAM ce soir, ça vous inspire particulièrement? Il y a un truc que vous allez regarder de très près? On avait Romain Dobry tout à l'heure, il nous reconfirmera ça peut-être en fin de séance, mais qui disait attention, les attentes sont monstrueuses sur Amazon si on regarde les facteurs techniques, hein, les positions qui sont prises à terme, etc., en fonction des résultats. Il y a Microsoft, moi j'entends autour de cette table tout le monde dire oh, Microsoft, c'est vraiment la valeur value. Bon, il y a un truc qui vous... Sur les GAFAM?
Bah, sur les GAFAM, on attend pas que ça, à un moment ou à un autre, on est tous d'accord pour dire que on va être sur le moment asymptotique du truc et que les résultats vont finir par ralentir un petit peu. On est plutôt agréablement surpris jusque-là, mais encore une fois, sur des dynamiques qui sont celles un peu du passé, entre guillemets, quelque part. Et puis le marché joue quelque chose d'au-delà, sans doute, du court terme avec l'IA, bien entendu. Moi, ce que je trouvais rigolo, c'était nous regarder beaucoup Nvidia, parce qu'à un moment ou à un autre, le Nvidia était plus un trend maker. C'est-à-dire que c'était plutôt Nvidia qui donnait la tendance du marché que typiquement les chiffres de l'emploi américain. Ce qui était traditionnellement, pendant des décennies, le chiffre qui regardait les marchés. Là, pour voir si la dynamique du marché action américaine allait continuer, on regardait un petit peu ce qui se faisait sur un certain nombre de valeurs, dont Nvidia. Et donc ce soir, ça va donner un petit peu le là. Et je termine sur un truc un petit peu macro qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est très intéressant aux États-Unis. C'est que vous avez les États-Unis, des actions qui sont au plus haut de l'histoire, alors qu'on est au milieu d'un conflit quand même qui est sans doute, si vous regardez la destruction de prix du baril de baril de pétrole, on est plus qu'en 73-74, mais on a quand même marché action qui est au plus haut, alors qu'à l'inverse, vous avez la confiance des ménages américains qui est au plus bas historique. Et la seule façon de réconcilier ça quand même, c'est de se dire qu'on est dans une économie en K, et qu'en fait le gros du marché américain, il est détenu par les 10% les plus riches, qui détiennent 90% des actions aux États-Unis, et ces 10% des plus riches font maintenant plus de 50% de la consommation américaine. Ouais. Donc on comprend que l'économie américaine tienne bien, que l'économie tient bien parce que la conso tient, mais la conso elle tient parce que les plus riches consomment. Et ça, c'est très lié au marché américain. Ouais, donc, on est quand même dans un truc pas circulaire, mais on a cette espèce d'effet richesse incroyable sur les ménages les plus riches qui tiennent le marché américain, qui elle-même tient l'économie américaine. Et ça, c'est un truc complètement nouveau. Est-ce que c'est durable, tenable? La question se pose quand même. Hein.
Bifurcation. Enfin, c'est pas si nouveau que ça, en fait. Hein. Les économies américaines n'est pas connue pour être l'économie la plus égalitaire du monde.
C'est du jamais vu. Hein,
On franchisse des niveaux qu'on bat tous les temps des records, mais que finalement, encore une fois, qu'on dise qu'on a une répartition très forte aux États-Unis, ça, par contre, non. Donc, évidemment, l'accentuation de ce phénomène pose question. Est-ce que c'est tenable? J'ai presque envie de dire que malheureusement, ça va encore s'accentuer davantage. Il y a un point dont on n'a pas trop parlé, c'est la politique budgétaire, et avec l'OBB, entre guillemets, donc la fameuse loi budgétaire qui va encore accentuer finalement cette bifurcation dont vous parliez, ça va encore continuer. Donc globalement, nous, on se dit, cet effet richesse positif qui nourrit la confiance des ménages les plus élevés, qui nourrit la consommation, il y a un effet certes circulaire, mais qui est vertueux d'une certaine manière, en tout cas pour les marchés actions. Et les GAFAM, globalement, quand on regarde juste les marges en fait des entreprises, on est au plus haut depuis à peu près 2015. C'est-à-dire qu'en gros, les marges des entreprises aujourd'hui, à l'échelle macro, sont revenues sur des points hauts historiques. Et donc, globalement, c'est tiré par qui ? De nouveau, en fait, les mêmes. Alors, on retrouve un peu les utilities aussi, qui retrouvent du poil de la bête, et qui surtout, en fait, sont alimenté par cette histoire tech, de nouveau. Donc, amener l'énergie, la ressource, là où effectivement c'est nécessaire, là où il y a plus de croissance, ça devient un enjeu absolument crucial. Et donc, fondamentalement, nous on se dit, depuis le début du conflit, en fait, on a même renforcé notre expo sur l'Amérique, sur les États-Unis, mais en particulier sur la partie la plus high beta, entre guillemets, parce qu'on se dit, s'il y a recovery, et c'est exactement un remake de 2025 qui est en train de se passer, le Nasdaq...
Impossible de passer à côté.
De toute façon, Nasdaq, month to date, depuis le début du mois, c'est plus 15, c'est un tout droit. Donc, c'est absolument stratosphérique. Et ça fait limite un peu peur. Mais on se dit que si vous avez raté, entre guillemets, ce rebond, en quelque sorte. Eh bien, le problème, c'est que bah, pour retrouver finalement, pour le rattraper, il faut ramer très dur. Ouais. Et donc nous, finalement, c'est pas une question qu'on se pose finalement sur la question de la tech. C'est là pour durer. Et l'excès de dépenses d'investissement qui leur a été reproché, me semble-t-il, un faux procès. S'il l'avait pas fait, on leur aurait dit effectivement, bah, on aurait dit, mais oui, regardez, vous n'investissez pas assez. Ils en font peut-être un peu trop, mais c'est clairement, à mon avis, le sens de l'histoire, c'est la croissance future qu'ils s'assurent.
C'est clair. Et puis c'est encore une fois, on en parle assez régulièrement. Si on se met à se dégager du marché sous prétexte que ça baisse, on perd toutes les reprises en V.
Il y a un phénomène comme qui est, alors je reviens dans le rebondi sur, c'est quand même complètement unique hein, ce que je disais dans l'histoire. Hein, aujourd'hui, 80% oui. des ménages américains ne on font le redit, plus que 30%. Ouais. Non, mais je dis l'inverse, c'est-à-dire hein, c'est que 10% des plus riches font 50% de la conso. Hein, mais si vous descendez dans les autres déciles, vous avez 80% des ménages les plus pauvres qui ne font plus que 30% de la conso. Ça, c'est jamais vu, même au début des marchés.
Oui, voilà.
Quand il y avait les Rockefeller, etc., les 10% les plus riches, ils étaient responsables on était sur même pas 25% de la conso américaine. Non, sur la tech, pour rebondir, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, la tech, elle se tient bien parce que d'abord, les résultats déçoivent pas et aussi que la tech est moins chère finalement. Mmh. C'est que comme ils ont des résultats meilleurs qu'attendus et qu'il y a une correction du marché, en termes de multiples de valorisation, vous avez plutôt un secteur qui est intéressant. Le plus, alors on parlait des banques, c'est le cas aussi, mais il y a aussi le secteur de la défense. Aujourd'hui, vous êtes dans le milieu d'un conflit qui, évidemment, va avoir des conséquences à long terme, où il va falloir se réarmer, accélérer le réarmement ne serait-ce que pour reconstituer des stocks de munitions, etc. etc. Donc on va avoir un méga trend sur la défense, et bien vous avez le secteur de la défense qui est 10% moins cher qu'avant le début du conflit. Vous avez des trucs comme ça qui, à mon avis, peuvent expliquer aussi des rebonds de secteurs comme ça assez impressionnants, alors qu'on est au milieu du conflit. Comme vous le disiez, voilà, la vérité dans le marché obligataire, mais aussi le marché action, voit un petit peu après le conflit, je pense.
Bon, dernier sujet, ça va être la dernière de Jérôme Powell. Lors d'un rendu de décision de la Fed, ensuite, il va confier son mandat à Warsh, à Kevin Warsh, qui vient de franchir la première étape de confirmation là, au Sénat. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Mais selon vous, le testament de Jérôme Powell, ce sera quoi, Mabrouk?
Testament. Vous posiez des questions. Franchement, j'avoue, je confesse pas avoir réfléchi. Non, enfin déjà, si on fait juste 3 secondes le bilan, c'est quasiment à sans faute. Enfin, je veux dire qu'en gros, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est tout à fait impressionnant de voir à quel point les anticipations sont correctement ancrées, à quel point le message est très clair. Et quelque part, finalement, si on doit retenir une chose, c'est que quand on a un banquier central, du moins un chairman, qui est aussi clair et qui pilote aussi bien finalement les anticipations, alors bien évidemment il y a eu quelques moments de doute, hein, mais bon, là encore on peut pas non plus lui reprocher une perfection, enfin on peut pas lui faire le procès de manque de perfection. Je pense que globalement, si on doit l'héritage quelque part de Monsieur Powell, c'est dire une communication claire, c'est finalement un des atouts nécessaires également, un des instruments de politique monétaire les plus importants aujourd'hui. Au-delà effectivement des questions, enfin techniques de taux, d'augmentation, etc., etc. Donc globalement, avoir une communication extrêmement claire assure la crédibilité, qui assure finalement l'efficacité de la transmission des politiques monétaires vers finalement l'économie. Et c'est ce qu'on demande à une banque centrale. Ouais. C'est clairement son mandat. Et si on doit retenir une chose, c'est clairement que, encore une fois, je le répète, c'est une masterclass. À chaque fois qu'il prend la parole, franchement, on écoute, on se délecte quelque part. Et puis, fondamentalement, certaines autres grandes banques centrales devraient peut-être s'inspirer un petit peu plus de Jérôme Powell.
Oui, joli dithyrambe de Mabrouk. Jean-François Robin, non seulement ça, mais en plus, il est resté comme un roc et en tenant tête à Donald Trump qui l'a menacé de tout un tas de trucs qu'il n'a jamais vraiment fait. Mais globalement, il a été l'incarnation de l'indépendance de l'institution monétaire.
Ouais, je crois que c'est exactement le terme qu'on peut peut-être regarder. Hein, alors, il est là depuis 14 ans, hein, donc évidemment, dans ce cycle-là, il a évidemment réussi des trucs mieux que d'autres. Et il y en a qu'il a sûrement loupé. Hein, quand vous êtes aux États-Unis en ce moment, il se fait quand même un peu aussi tirer à boulet rouge parce que ça fait 5 ans que l'inflation est au double de sa cible, etc. Ouais. En moyenne. Bon, bref, vous avez un problème d'inflation et des prix qui est quand même normalement son boulot qu'il n'a pas trop géré. Mais mais c'est vrai que sur l'ensemble de son mandat, de ses mandats, hein, sur ses 14 ans de mandat, c'est quelqu'un qui est rentré à la Fed nommé par Obama. Là où ce que je trouve intéressant, c'est effectivement que c'est quelqu'un qui aura maintenu l'indépendance de la Fed. On retiendra ces images où il tient tête à Trump sur le chantier de la Fed avec son petit papier qui regarde ça et dit mais ça en fait c'est des travaux qu'on a déjà finis, etc.
Bon,
il avait réussi à quand même le petit bonhomme qui avait tenu tête quand même aux promoteurs, au magnat de l'immobilier. Bon, c'était très marrant. Évidemment, moi c'est ça que je retiens, c'est quand même quelqu'un qui a défendu bec et ongle à la Fed. Il était encore devant la Cour suprême présent pour un peu mettre le soutien de toute la Fed vers Lisa Cook qui était menacée de destitution, etc. Moi je retiens un peu ça. Puis je retiens la deuxième chose, c'est que Jérôme Powell, alors ça fait un peu le pendant avec Christine Lagarde, c'est pas un économiste. C'est un avocat, c'est un lawyer, ouais, hein. C'est exactement le même profil que Christine Lagarde. Donc, il était très clair dans sa communication. Là, je mets un petit bémol. Moi, je préférais les discours de Janet Yellen, qui était niveau prix Nobel, enfin, qui ne l'a pas, mais en termes économiques. Ouais. Elle avait quelque chose de quand même, je trouve, d'un autre ordre en termes économiques. En revanche, effectivement, lui, dans sa communication, était assez clair. Là aussi, où on peut mettre un petit bémol, c'est qu'il y a quand même pas mal de volatilité dans la politique monétaire américaine. Ouais. Et notamment la volatilité autour des meetings de la Fed est plus élevé qu'autour des meetings de la BCE.
Bien sûr.
Donc, quelque part, la fameuse forward guidance, elle est très nécessaire, comme elle a été dit précédemment. En revanche, elle n'a pas forcément suffi à la Fed quand on compare avec d'autres banques centrales. Et typiquement, la BCE a été plus vite sur les taux négatifs, ce qu'ont pas fait la Fed. On peut critiquer la chose, mais on a eu la réactivité pas forcément là. Et je termine là-dessus, c'est que quand même, du coup, Jérôme Powell, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais probablement qu'après lui, la Fed sera un peu moins indépendante. Moi, c'est ça que je retiens de Kevin Warch, c'est qu'il est, Powell a été nommé aussi par les Républicains, par finalement à la tête de la Fed par Trump, hein. Mais je pense quand même que Kevin Warch est plus un homme de Trump, c'est plus un yes man de Trump que n'a été Jerome Powell, que le marché achète l'idée, c'est quelqu'un qui va être très indépendant. D'ailleurs, il a fait le discours qu'il fallait pour être sûrement confirmé là dans les prochains jours. Ouais. Mais quand même, attention, Kevin Warch, il est plus proche de Trump que de Powell, et je pense qu'après Powell, la Fed sera un peu moins indépendante.
Cela dit, c'est la crainte qu'on avait quand Powell est entré en fonction. Je sais pas si vous vous rappelez,
c'est le même discours, en fait, et quelque part, le risque est tellement asymétrique d'avoir une banque centrale qui devient, enfin, la première banque centrale du monde, qui peu d'indépendance. Ouais. En fait, le prix à payer, il va être immense. C'est-à-dire qu'en gros, une banque centrale qui n'est plus lisible en quelque sorte, entre guillemets, c'est trop coûteux en fait en termes de marché, en termes de volatilité, etc. Donc, je pense effectivement que c'est un débat qui va revenir de nouveau. Et moi, je parie sur une transition lisse entre guillemets entre Jérôme Powell et Kevin Warch. Le seul truc qui va faire la différence, c'est que l'un était, enfin jusqu'à effectivement Jérôme Powell, axé sur une politique de demande, soutien à la demande, alors que Kevin Warch va être beaucoup plus équilibré, politique d'offre, politique de demande, avec justement un accent qui va être mis sur la productivité.
Mathilde, plongée périscopique, s'il te plaît. Car nous plongeons dans la data room et grâce à vous, Mabrouk Chetouane, on va rester dans l'eau, mais alors avec des niveaux colossaux. Votre data du jour, 1,45 milliard de gallons d'eau. De quoi vous nous parlez là ?
Alors, 1,45 milliard, donc c'est la fourchette et l'estimation haute de la consommation d'eau aux États-Unis par les data centers à horizon 2030. Donc, alors à quoi ça correspond ? Parce que 1,45 gallons, alors un gallon c'est à peu près 3 litres et des bananes. Ouais. Donc je vous laisse faire la multiplication. C'est la consommation de la ville de New York. Donc là on parle d'une ressource, comment dire, qui est indispensable finalement à la vie, qui va être dédiée fondamentalement au fonctionnement des data centers. Donc on est sur quelque chose, je parle effectivement consommation quotidienne. Donc on n'est pas sur une consommation annuelle, on est sur des chiffres qui sont colossaux et ça va induire par ailleurs des investissements d'infrastructures qui vont être là aussi absolument titanesques, puisqu'on parle effectivement d'un surcroît d'investissement de l'ordre d'à peu près 10 à 50 milliards de dollars sur un horizon très court, parce que 2030 c'est demain en fait en réalité. Ouais. Donc il va falloir mobiliser des ressources tout à fait substantielles, à la fois financières et à la fois aqueuses, si je puis dire, pour pouvoir faire fonctionner tout ce monde. Et à un moment donné, ça va poser un problème. Qu'est-ce qu'on fait finalement des êtres vivants ?
Oui, accessoirement, Non, mais question intéressante.
Jean-François, on va poser la question à l'IA ?
Oui, voilà. Oui. Quelle bonne idée. Jean-François Robin, 9,5 milliards d'euros, les aides des pays européens face à la crise énergétique de l'Iran, j'allais dire presque seulement
C'est tout.
Oui, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette réaction pour l'instant, on a des gouvernements européens qui sont beaucoup plus mesurés qu'ils ne l'ont été en 2022, hein, lors de la pic d'inflation qu'on avait eu à l'époque. On avait eu plus de 650 milliards d'euros qui avaient été dépensés par les États européens à ce moment-là, en 2022-2023. Là, pour l'instant, on est vraiment dans des gouvernements qui, bah, comme tout le monde, ils ne savent pas si ça se termine demain ou si ça dure 6 mois encore. Et donc, on est sur des gouvernements qui vont un petit peu à pas compter dans des choses assez différentes. On a des pays comme l'Allemagne qui dépense 1,6 milliards, donc un peu plus. On a les Français qui, pour le coup, sont sur les 70 millions avec des aides hyper ciblées. La vérité, elle est sans doute un peu entre les deux. C'est-à-dire que ce que recommande tout le monde, c'est justement plutôt un truc à la française qui a été plutôt typiquement salué dans ce point de vue. Il vaut mieux cibler les aides plutôt que des aides générales où, en fait, finalement, vous subventionnez un usage que vous cherchez à réduire, c'est-à-dire celui du pétrole et du gaz.
Et surtout, vu notre situation budgétaire.
Et notre situation budgétaire ne le permet pas. Et à l'inverse, vous avez les Italiens qui ont dépensé 1 milliard en 45 jours pour subventionner, hein, caper les prix de l'essence qui, finalement, résultat, sont au-dessus des prix de l'essence française dans les stations. Et ça, ouais, vous a coûté 1 milliard. Donc, valait mieux faire ce qu'a fait la France pour l'instant que ce qu'a fait l'Italie.
Jean-François Robin, Mabrouk Chetouane, Natixis, merci d'avoir été avec nous pour animer ce club, encore une fois absolument passionnant. Restez à l'écoute de BFM Business. Dans quelques minutes, on va refaire la séance et clôturer ce BFM Bourse.
BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Et c'est fini du côté du CAC 40. Bah, encore de beaux volumes, hein, 3,8 milliards sur le CAC 40 qui termine sur une baisse finalement modérée, moins 0,39%. 8072 points. Du côté des autres places européennes, on a un Eurostoxx 50 qui perd 0,34%, moins 0,27% pour le DAX à Francfort. Madrid, moins 0,67%. Un coup d'œil sur Milan, moins 0,5%. Surtout du côté de Londres, là où ça s'est mal passé, moins 1,27%. Il faut dire que là-bas, le 10 ans, les emprunts 10 ans sont montés au-delà des 5% de rendement. Et que là, ça commence à vraiment piquer dans un cadre de tension générale, hein, sur les rendements. On est à 3,76 maintenant sur la dette française et 3,10 sur la dette allemande. Donc effectivement, là, va commencer à se poser un problème. On est sur une semaine de banque centrale. On va attendre que la BCE, notamment, s'exprime là-dessus. À noter la plus forte hausse du côté de Paris sur le CAC 40, c'est ST Micro qui gagne quasiment 6%, à plus 5,98, 44,72 €. Plus forte baisse Eurofins Scientifique, moins 3,7%, 57,54 €. Du côté du SBF 120, de l'indice large, c'est Soprasteria qui a gagné 17,5%, 134 €. Il se passe quelque chose, hein, du côté des ESN françaises. Ça se sent, hein, depuis quelques mois, les flux reviennent et on a l'impression de groupes qui savent certainement beaucoup mieux vendre désormais l'intégration de l'IA. Et ça plaît au marché. Soitec aussi, plus 14,5%, encore une séance vraiment fast, 113,10 €. La plus forte baisse du SBF 120, elle est pour Aéroports de Paris, moins 7%. À 100,80 €. Donc les taux, on en a parlé. Le pétrole, 105,54 $ du côté du brut léger américain, 109,91 € pour le Brent de mer du Nord. Romain Daubry, Bourse Direct, un coup d'œil sur cette clôture du CAC 40. Bon, 8072, ça a l'air de tenir un peu près. Moins 0,39 %, mais en dessous, c'est le risque de glissade.
Ouais, effectivement. On vient de tester, on clôture sur un niveau d'alerte sur l'indice parisien, c'est 8,75 €. À 3 points près, on est en dessous. On a comblé le gap qu'on avait laissé ouvert le 8 avril dernier, le gap haussier. On s'installe juste sur ce niveau. Donc, il faut absolument réagir. Si on regarde graphiquement, l'indice parisien s'inscrit dans une structure d'épuisement dans la baisse, c'est-à-dire une consolidation qui devrait déboucher sur un mouvement haussier. En tout cas, c'est ici qu'il faut réagir. Il faudra déborder 8128 pour confirmer la réactivation haussière et aller chercher des niveaux cibles situés entre 8000, autour de 8420 points. Le risque sous 8075, c'est d'accélérer. Effectivement, c'est un niveau d'alerte. Et dans ce cas-là, c'est 7884, la première cible. Donc, un marché qui est lourd. On ne peut pas dire qu'il y ait de pression baissière ou des choses à la marge, effectivement, à la veille de cette grosse, grosse séquence entre réunion de la Fed et publication de 4 GAFAM ce soir.
Romain Daubry, on sera notamment attentif à Amazon, comme vous nous aviez prévenu, les positions sont très très spectaculaires et très optimistes, donc ça a intérêt à délivrer, sinon ça va être un petit peu catastrophique, donc on va suivre ça, particulièrement Amazon. Romain, vous restez avec nous pour commenter la configuration technique des valeurs du jour dont on va parler, et on refait la séance.
BFM Bourse, on refait la séance.
Ah oui, on la refait cette séance. C'est parti avec Aymeric Blond de Taylor Asset Management qui est avec nous. Bonjour Aymeric. Et Franck Morel de Zone Bourse qui est avec nous en visio. Merci beaucoup. Romain Daubry qui est resté avec nous. Tony Douziac qui est avec nous en direct de Zone Bourse. Messieurs, on va peut-être commencer à parler des banques. On a eu quand même des résultats très surprenant et très solide de la part de Santander, de la part d'UBS, de la part de Deutsche Bank ce matin. Demain, on va avoir nos trois grandes majors françaises, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole. Aymeric Blond, on a un préféré chez vous du côté des valeurs bancaires françaises. Il y en a une que vous suivez plus particulièrement ?
On suit les trois, mais c'est vrai qu'elles appartiennent toutes les trois à des configurations différentes. BNP, c'est plus valeur de croissance, plutôt bien rodée, qui est déjà, ou tout bien est en place, donc il n'y a pas vraiment grand chose à optimiser, mais c'est une histoire de croissance un peu perpétuelle. On a Société Générale, il y a plutôt une affaire de momentum avec la restructuration du groupe et puis la reprise des différentes activités au sein du groupe. Et on a Crédit Agricole qui est plus une affaire un peu de consolidation, CAPEX. Effectivement, il y a vraiment des tonalités, des moments différents pour ces trois sociétés. Je pense qu'effectivement, on peut peut-être, pour la qualité BNP et puis pour l'effet momentum Société Générale. Mais si je dis BNP plus.
Ouais, peut-être plus BNP. Mais c'est vrai que ça joue entre les deux, la Société Générale et BNP, avec peut-être une petite majorité pour BNP. On l'a vu lors de la question du jour, effectivement, c'est BNP Paribas qui s'était dégagé comme la préférée des auditeurs, des téléspectateurs pour faire figure de superstar lors de la séance de demain. Tony Douziac, Zone Bourse, vous, votre valeur préférée, ce serait quoi des trois?
Alors c'est vrai qu'on est positif sur l'ensemble du secteur bancaire, mais on a une petite préférée, même si on n'est pas positionné dessus, c'est plutôt BNP pour la qualité du dossier, pour la diversification, même s'il y a une belle histoire de restructuration aussi du côté de Société Générale. Mais c'est vrai qu'on est un peu plus positionné, nous, à l'étranger, en Espagne ou en Italie, par exemple, mais plutôt BNP, voilà, pour la qualité du dossier.
BNP, c'est vrai que vous deviez être content là si vous étiez positionné sur le secteur bancaire espagnol. Santander, des résultats records. C'est vrai qu'on est passé en plus pendant des mois et des mois où les banques du Sud, justement que vous suivez, qu'elles soient italiennes ou espagnoles, étaient vraiment très intéressantes et avaient un momentum intéressant. Mais là, apparemment, sur Santander, le dynamisme reste entier, Tony.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu de belles publications côté espagnol avec Santander, c'est avec une belle croissance du nombre de clients, avec une rentabilité qui est proche des records. Donc c'est toujours très rassurant. Le seul point négatif peut-être, c'est les provisions. Donc on regarde toujours la qualité du crédit, on regarde toujours des ratios comme le CET1, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les banques prolongent leur momentum qui est très positif depuis plusieurs années. Elles ont bénéficié de taux porteurs, de l'environnement qui est très positif, d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc il y a pas mal de vent arrière qui porte le secteur et qui continue de le porter en 2026. On pense que c'est pas fini, même si il y a moins d'upside de potentiel boursier. Mais en tout cas, je pense qu'il faut toujours être positionné sur le secteur.
Romain, vous allez départager un peu tout le monde. Cela dit, il y a l'air d'y avoir une belle unanimité pour BNP Paribas. Enfin, pas unanimité, mais grande majorité sur... c'est peut-être la banque la plus solide, la plus intéressante. Point de vue configuration technique, entre BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, laquelle est la configuration la plus intéressante ?
Effectivement, BNP et la Société Générale coude à coude, un petit avantage si on regarde la force relative, c'est-à-dire l'intérêt, l'action des grosses mains sur le marché, c'est un petit peu à la faveur de la BNP, mais la Société Générale n'est pas loin. Crédit Agricole, c'est un peu derrière, et puis si on dézoome effectivement, celle qu'on préférerait, c'est Santander qui est de loin en tête en termes d'intérêt et de force relative.
Bon, mais on est vraiment au cœur de l'actualité, puis on suivra BNP, on est en train de leur mettre la pression, là, très clairement. Autre titre vraiment qui a fait l'actualité, c'est évidemment Total Energy. On le redit, des prix du pétrole, évidemment, qui plaident en faveur de résultats, bon, qui étaient extrêmement convaincants. Hausse de la redistribution aux actionnaires avec un dividende qui va augmenter. Des bénéfices stimulés, bien entendu, par les cours du brut, par les activités de courtage. On a un Brent qui est revenu du côté des 110 dollars et du côté des 106 pour le baril de brut léger américain. C'est vrai qu'on avait eu les chiffres de BP hier. Total se fait aussi l'écho de cette très grande solidité des majors pétrolières. Vous, ces résultats vous ont évoqué quoi? Parce que c'est vrai que du côté de la bourse, bon, on termine sur un petit moins 0,05% à 78,23. Enfin, le parcours de Total est quand même très très impressionnant. Aymeric Blond, Total, ça vous dit quoi?
Ça me dit, ça m'inspire de la prudence.
Ah oui.
Oui, parce qu'en fait, je suis d'accord. Il y a un effet momentum absolu. Vraiment absolument très très fort pour ce genre de dossier, Repsol, Total, enfin tous les pétroliers auxquels on peut penser, qui seraient par ailleurs en plus exposés de manière importante à la partie raffinage, en plus de l'extraction. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un petit peu des configurations de bull trap, où le cours a tellement monté sur des effets d'actualité et pas forcément des effets vraiment très concrets, on n'est pas à l'abri qu'un jour il y ait une épée Damoclès qui se mette en place et que je sais pas la paix soit signée au Moyen-Orient, en Iran, le marché va aller anticiper et à ce moment-là effectivement ce genre d'acteur qui va à mon avis beaucoup retracer indépendamment de la qualité opérationnelle de la société. C'est un peu comme dans la défense, les sociétés de la défense, demain la paix en Ukraine est signée, et ben les sociétés de la défense vont effectivement vont perdre pas mal de 2% en bourse lors de la séance. Mais Total ce sera pareil, mais bon effectivement aujourd'hui on a une qualité très importante, on a des marges de trading qui sont très importantes, et il y a eu un petit coup qui a été fait en plus, qui a pas mal rapporté au moment où la guerre a été déclarée. Mm-hmm. Ils avaient effectivement sécurisé des contrats à ce moment-là. Les marges sont en hausse, l'activité est en hausse, enfin il y a absolument rien à dire. Mais bon voilà, aujourd'hui on est quand même pricé pour la perfection.
Ouais, Tommy Douzier, justement, ça peut être justement une entrave, ce côté momentum de Total?
Pas le côté momentum, mais oui, c'est vrai que en tout cas, c'est au cœur de l'actualité. Donc, ceux qui voulaient rentrer sur le dossier sont pour la plupart rentrés. Effectivement, on est plutôt... Alors, c'est pas qu'on est prudent, on est relativement neutre, c'est-à-dire que la publication, elle est excellente. Croissance de 29% des bénéfices, 23% des cash flows, enfin, distribution record, etc., des rachats d'actions jusqu'à 1,5 milliard. Donc, c'est les planètes sont alignées pour Total Energy. Mais c'est vrai que la moindre mauvaise nouvelle, en tout cas d'un point de vue macroéconomique sur la résolution du conflit en Iran, pourrait faire effectivement baisser le titre. Et même après cette bonne publication, finalement, le titre ne gagne pas beaucoup. Donc, il va sûrement consolider quelques temps, le temps de digérer un petit peu toutes ces bonnes nouvelles. Mais nous, on est relativement prudents. On pense que le marché... La grosse partie du mouvement aussi a été faite, donc on est plutôt prudent. Hein.
Romain Dobré, un petit coup d'œil sur la configuration technique de Total, c'est un titre qui peut receler quelque chose trap, ou vous aussi vous seriez un petit peu prudent là-dessus?
Oui, effectivement, on voit que depuis la mi-avril, il y a eu pas mal de prises de bénéfices sur les titres, des séquences de baisse avec des rebonds, mais les séquences de baisse étaient marquées avec des volumes plus importants. On est dans un grand trading range, c'est 71,57, 79,42. On est en partie haute, il n'y a pas de structure de retournement à ce stade, on a quand même quelques divergences et encore une fois des volumes un peu plus lourds dans les mouvements de baisse. Donc pour l'instant, c'est une consolidation, c'est la sortie de cette zone 71,57, 79,42 qui nous en dira plus, mais on voit que le momentum est limité. Si on passait 79,42, on pourrait envisager des extensions jusqu'à 87,32, mais on voit qu'on n'a pas le momentum pour ça dans l'immédiat. Si on rompt 71,57, c'est retour aux alentours de 63. Donc le risque baissier est probablement un petit peu plus marqué, même si on n'a rien d'avéré pour l'instant.
En tout cas, on sera attentif, effectivement, parce que Total, ça commence à devenir effectivement un petit peu tendu. Il va falloir que le flot de nouvelles reste positif. Messieurs, il y a quand même une superstar aujourd'hui sur le SBF 120, c'est Sopra Steria, hein, qui gagne 17,5% à 134€. De manière un petit peu plus générale, on attend aussi les résultats de Capgemini demain. On a fini en hausse de 3,4% à 102,70€. Tony Douzièche, est-ce qu'on est en train d'acter enfin le retour des ESN françaises qui ont été torpillées depuis des mois par ce fameux risque de la disruption de l'IA?
Alors c'est vrai que les titres, le secteur a beaucoup baissé, que ce soit Capgemini, que ce soit Accenture aux États-Unis, ouais, tous les grands acteurs qui font du conseil en IT, globalement, ont beaucoup baissé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont dans les cours, et forcément, avec des valorisations divisées par deux par rapport à, en termes de multiples par rapport à leur plus haut historique, voire parfois par trois. Donc c'est vrai que beaucoup de nouvelles sont dans les cours, et la moindre bonne nouvelle pourrait inverser la tendance. Alors je pense que néanmoins, d'un point de vue structurel, ces acteurs-là sont partis pour avoir moins de pricing power. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui va durer, je pense. Mais effectivement, en tout cas, il peut y avoir des bonnes nouvelles, comme Sopra Steria aujourd'hui. Voilà. Donc, ça peut se propager sur plusieurs ESN. Et il y a plusieurs gérants, effectivement, qui commencent à reconstruire des positions sur ces ESN.
Aymeric Blond, vous pensez que ça peut être un bon moment? On a quand même un signal que voilà, les marchés ils sont peut-être allés un petit peu fort sur cette thématique un petit peu destructrice de valeur, et se sont dit, bah non, justement, au contraire, on a en plus besoin d'eux pour intégrer l'IA.
Oui, c'est vrai que j'aime bien utiliser la formule de destruction créatrice.
Schumpeterisme. Voilà.
et donc... dans un premier temps, c'est vrai que tout le monde a passé un petit peu au tamis de l'IA, les différents secteurs d'activité, et c'est vrai que les ESN sont très très mal ressortis, très défavorablement. On s'attend toujours à ce que effectivement il y ait des disruptions très très importantes.
Ouais.
Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pricé déjà beaucoup de choses. On le voit, les cours de bourse sont vraiment à des cours un petit peu planchés. Mmh. Il y a quelques années, on aurait acheté avec les deux mains ce genre de stock. Donc, au vu de leur croissance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les publications sont correctes. Mais on voit pas encore de gros redémarrage de l'activité. Donc, je suis encore un petit peu sur la défensive sur ce genre de dossier. Je suis neutre sur la partie séquence boursière, sur la partie qualité des sociétés. Je serais plutôt à l'achat, mais j'avoue que je temporiserai un petit peu pour en savoir un peu plus et avoir quelques publications derrière moi pour effectivement me réapproprier les dossiers et savoir un petit peu la vraie dynamique sous-jacente.
Le signal que vous attendriez, c'est une amélioration continue dans les performances.
Absolument.
Absolument. Ok.
Je me fierai pas à une publication.
Ouais. Et juste une question, alors peut-être un petit peu à brûle pour point, mais ST Micro encore 6% de hausse quasiment, Soitec plus 14,5%. Enfin bon, Soitec, ça devient une histoire. On regarde, on fait, on cherche même plus à comprendre. Bon, boum, boum, boum. Mais ouais, les semi-conducteurs européens, là, il commence à y avoir une histoire intéressante, non seulement à raconter, mais dont on peut pas vraiment rester à l'écart maintenant.
Non. Et c'est vrai que il y a pas mal de gérants qui, au départ, sont restés à l'écart de certains dossiers, je pense, notamment STM. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça monte beaucoup, et ces derniers jours, ça a un peu monté aussi.
Ouais.
C'est parce que les gens se réapproprient le dossier, se disent « on a peut-être sanctionné ce dossier un petit peu trop, la partie smartphone, c'est peut-être pas si important dans l'équation ou dans l'histoire, avec un grand H de la société. On a peut-être d'autres choses qui nous permettent de nous projeter à un peu plus moyen-long terme. On parle de photonique, de gestion de puissance, d'électrification, etc. Et c'est vrai que c'est un acteur qui est en pointe là-dedans, un petit peu comme Infineon en Europe. Et donc là, il y a probablement un phénomène de réappréciation de ce genre de dossier. Sur ce sujet, je serais un peu plus prudent. Beaucoup de gens anticipent beaucoup de choses sur la partie photonique de l'activité qui est aujourd'hui embryonnaire.
Très expérimental.
Voilà, c'est expérimental, c'est embryonnaire, la contribution au chiffre d'affaires est proche de zéro. J'ai peur qu'au moment de la publication qui va probablement arriver dans pas très longtemps, je sais plus la date, mais qu'on ait une mauvaise surprise et que les gens se disent, ah mince, ça va pas aussi vite que prévu.
Bon, il va falloir être prudent, mais c'est vrai qu'en plus, il est très très volatile ce titre Soitec, et peut-être que le marché est en train d'intégrer des choses peut-être indues au cours. Mais enfin, en tout cas, un plus 14,5% encore, 113,10€, une performance spectaculaire. Et donc, ST Micro, plus 5,98€ à 44,72€. Tony Douziette de Zone Bourse qui était avec nous. Merci infiniment, Romain Dobry, Bourse Direct, et Aymeric Blond de Taylor Asset Management. Merci d'avoir été à l'écoute de ce BFM Bourse. Je vous retrouve demain au même 15h30, 18h. Et d'ici là, Edwige Chevrillon entre dans ce studio dans quelques minutes. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.